Bienvenue à l'émission qui déclare la grâce souveraine et éternelle de Dieu en Jésus-Christ. L'évangile glorieux du Seigneur Jésus-Christ et son œuvre accomplie à la croix pour les pécheurs que Dieu le Père a ordonné à ce salut. Puisqu'il nous accordait des oreilles pour entendre les attributs glorieux de Jésus-Christ à travers ce message tiré de sa parole inspirée.
Aujourd'hui, mon texte est tiré de l'Évangile selon Jean, le chapitre 17, à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Et je voudrais vous parler de l'œuvre efficace du Seigneur Jésus dans le salut, son œuvre efficace. Il y a un Jésus qui est prêché aujourd'hui, et ce Jésus est très populaire. Mais lorsque les prédicateurs l'annoncent, ils disent que Jésus voudrait bien les sauver, mais hélas, il ne peut pas les sauver tant que les auditeurs ou les pécheurs l'acceptent. Donc tout est conditionné sur la décision de l'homme. Ils disent en plus que le Seigneur Jésus est venu dans le monde pour donner sa vie pour tous les individus du monde, sans exception. Mais là, si ceux pour qui il est mort ne croient pas en lui, alors ils iront en enfer. Donc, cela veut dire que la majorité de personnes pour qui le Seigneur Jésus a donné sa vie sont à l'enfer. Quand je contemple un tel Jésus, il faut dire qu'un tel Jésus a fait échec. Ce n'est pas du tout un sauveur qui veut bien sauver, mais qui n'arrive pas à l'accomplir. Nous voyons le contraire ici dans cette prière du Seigneur Jésus dans le jardin, face à la croix, à la veille, où il devait donner sa vie. Et il s'adresse à son Père, et écoutons ce qu'il dit dans le verset 4 de Jean 17. Il dit à son Père, « Je t'ai glorifié sur la terre. » Notez, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Il dit encore, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Est-ce que vous ne voyez pas, en entendant les paroles de cette prière du Seigneur Jésus, comment il a achevé tout ce que le Père lui a donné de faire en ce qui concerne le salut? Autrement, il n'aurait pas pu dire dans le verset 4, « Je t'ai glorifié sur la terre. » La gloire de Dieu le Père, c'est d'honorer le Fils, et la gloire du Fils, c'est d'honorer le Père. Et le Fils est venu dans le monde dans un seul but, c'est d'accomplir tout ce que le Père lui a envoyé accomplir. Par exemple, dans Jean chapitre 4 et le verset 34, le Seigneur Jésus dit ceci en s'adressant à ses disciples au sujet de cette femme samaritaine. Il dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et notez bien, et d'accomplir son œuvre. » Alors la seule manière que Christ aurait pu glorifier le Père, c'est d'accomplir l'œuvre que le Père lui a donné d'accomplir en venant sur cette terre. Nous n'avons pas dans la parole de Dieu un Jésus qui est venu tenter le salut, mais plutôt qui est venu sauver. Et il a accompli ce salut à l'égard de ce que le Père lui a donné. Dans Jean chapitre 8 et le verset 29 encore, nous lisons, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » S'il y en avait pour qui Christ est mort, et en fin de compte, ceux-là finissent par aller en enfer et subir le jugement de Dieu, quoique Christ a payé leur dette, de deux choses l'une. Un, Dieu ne serait plus juste parce qu'il a déjà puni son Fils pour ces pécheurs-là qui, s'ils finissent par aller en enfer, alors Dieu lui-même serait injuste. Et l'autre aspect, c'est de dire que Christ est venu payer une rançon qu'en fin de compte ne sauve personne, ne rassonne personne, si tout dépend maintenant de l'homme. Ça, c'est un message étranger à la Bible, et ce n'est certainement pas l'évangile de Dieu. Peut-être c'est l'évangile de l'homme, mais c'est un faux évangile. Dans Hébreux, chapitre 10 et le verset 7, nous lisons ceci. Alors, j'ai dit, ce sont des paroles du Seigneur Jésus, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Il s'agit là de l'Ancien Testament, des Écritures inspirées de Dieu, et nous voyons ici que le sujet principal de ces Écritures, c'est Christ. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Et notez bien, il dit, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu, et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens, noter, pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose, c'est-à-dire, ayant accompli tout ce qui est écrit de lui dans la loi. Donc, ce n'est plus la loi à laquelle nous devons obéir, mais il dit qu'il est aboli, il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. La seconde, c'est l'Évangile, c'est le Nouveau Testament établi par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Un testament, c'est comme nous avons aujourd'hui, si nous voulons laisser nos biens à nos enfants ou à des héritiers, donc nous établissons un testament légal et nous écrivons là-dedans les noms de ceux qui doivent bénéficier de ces biens, qui sont les biens de celui qui est le testateur. Et c'est à la mort du testateur que ces biens sont distribués. C'est ainsi les pécheurs pour qui le Seigneur Jésus-Christ est mort, leur nom était déjà écrit dans le livre de l'agneau qui a été immolé et écrit depuis l'éternité. Donc, après la mort du Seigneur Jésus-Christ, c'est la mort du testateur. Ainsi, ces biens sont distribués à chacun dont leurs noms sont déjà écrits dans ce livre de vie. Tel est l'exemple que nous voyons ici de l'œuvre de Christ. Il n'a pas fait échec en quoi que ce soit, mais grâce à son œuvre, il a accompli tout ce que le Père lui a donné de faire, et le Père est satisfait. Il a fait ce qu'aucun pécheur ne pouvait accomplir, laisser à nous-mêmes dans cette chair qui est corrompue et endurcie dans le péché. Même nos propres justices sont comme des vêtements souillés devant Dieu. Alors il fallait cette œuvre du Seigneur Jésus-Christ venant dans ce monde pour obéir parfaitement à la loi et à la justice de Dieu et de donner sa vie pour payer la peine de la loi qui est la mort. Et nous lisons tout cela dans Romains chapitre 3, dans le verset 19. C'est écrit, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Ceux qui imaginent aujourd'hui que la loi a été donnée comme un moyen de salut se trompent. La loi n'a jamais été donnée comme moyen de salut, mais comme c'est écrit ici, afin que toute bouche soit fermée. Plus les pécheurs se justifient devant Dieu, plus la loi les condamne, afin que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Et notez verset 20 de Romains 3, car nul ne sera justifié, déclaré juste devant lui par les œuvres de la loi. Ceux qui prêchent la justification des pécheurs par une obéissance personnelle de leur part ne connaissent pas l'Évangile. Ici, c'est écrit, nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est tout. Quand nous lisons la loi, nous ne voyons que notre culpabilité devant Dieu. Et plus nous lisons, plus le Seigneur ouvre nos yeux, plus nous nous condamnons. Et cette loi nous condamne. Donc, laissez à nous-mêmes, il ne devait pas avoir d'espoir. Mais quel est le remède de ce que nous voyons ici dans les Écritures, verset 21? Mais maintenant, maintenant signifie depuis la croix du Seigneur Jésus, maintenant, sans la loi, cela veut dire sans exiger de l'homme une obéissance à la loi, la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Bien vrai, nous sommes en train de lire le Nouveau Testament, mais cette vérité de la mort de Christ pour satisfaire la justice de Dieu a été annoncée depuis l'Ancien Testament, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Notez bien, c'est par cette foi qui a pour objet le Seigneur Jésus-Christ. Basé sur ce qui est révélé dans les Écritures, que nous voyons cette justice de Dieu satisfaite. Et il n'y a point de distinction, c'est-à-dire que ce soit les Juifs, que ce soit les Grecs, que ce soit des hommes ou des femmes, pas de distinction. Voici la seule justice de Dieu, le seul moyen par lequel Dieu justifie les pécheurs, et c'est par cette foi en Jésus-Christ. Cela ne signifie pas que c'est ma croyance personnelle qui me justifie, mais la foi qui déclare le Seigneur Jésus-Christ, révélé dans l'Évangile de Dieu, dans ses Écritures inspirées de Dieu. C'est dans ça que nous voyons notre justice devant Dieu. Il n'y a point de distinction. C'est dans ce sens que la Bible dit que Christ est mort pour tous les hommes. Ce n'est pas sans exception, parce qu'il y en a qui n'a pas donné à son Fils, mais sans distinction. Et voilà pourquoi, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dès que Adam a péché, toute sa race était désormais séparée, privée de la gloire de Dieu. Aucun ne pouvait s'approcher de Dieu à cause de sa gloire, sa sainteté, sa justice. Alors, où est l'espoir? Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voilà où cette affaire a été réglée devant Dieu pour les pécheurs que Dieu a donné à son Fils. C'est à la croix. Et c'est en vue de cela que le Seigneur Jésus est en train de prier ici dans Jean chapitre 17. Comment est-ce qu'il a pu dire dans le verset 4 que nous lisons, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire, pourtant il n'est pas encore mort. » Il est en train de parler de l'œuvre de cette obéissance personnelle qu'il devait accomplir en obéissant à la loi jusqu'à ce point, car étant l'agneau de Dieu, il devait être sans péché. Donc, il se recommande ici à son Père comme ayant, jusqu'à ce point, accompli tout ce qui est nécessaire pour que Dieu accepte l'offrande de sa vie qu'il était prêt à donner. C'est pourquoi plus tard dans Jean chapitre 19 et le verset 30, nous lisons ces paroles de la croix quand c'est écrit « Jésus eut pris le vinaigre et dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. Ayant tout accompli, donc ici dans Jean 17, ayant tout achevé, en ce qui concerne les préceptes de la loi, et dans Jean 19 et le verset 30, ayant tout accompli en ce qui concerne la peine de la loi. Ça exigeait sa mort. Sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Alors vous voyez comment l'œuvre de Christ est efficace. C'est le Christ de la Bible que c'est ainsi. Peu importe ce que les hommes prêchent dans leur soi-disant évangile aujourd'hui. Donc nous voyons que tout cela, le fait que Christ a pu accomplir tout ce que le Père lui a donné à faire, c'est à cause de cette relation que le Fils avait avec le Père depuis toujours. Ce n'est pas au début de son existence sur la terre que Christ a commencé maintenant à exister, non. Dans le verset 5, nous lisons, « Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » L'apôtre Jean, en décrivant le Seigneur Jésus depuis le premier chapitre, nous a dit que depuis le commencement et que la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette manière d'écrire concerne le Seigneur Jésus, comment nous le savons, parce que dans le verset 14 de Jean 1, ça nous dit, la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Ça, c'est le Seigneur Jésus. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est de ça que Christ parle ici en s'adressant à son Père dans cette prière. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Donc, c'est clair que ce Jésus de la Bible est efficace dans son œuvre parce qu'il est Dieu. Il est venu faire la volonté de son Père en tant que Dieu dans la chair. Et maintenant, il se prépare pour retourner à son Père, à cette place de la gloire divine qui lui a été réservée, ayant achevé son œuvre comme médiateur, comme le rédempteur, comme le justificateur de son peuple. Et c'est ce que nous lisons dans les versets qui suivent ici, dans Jean 17 et le verset 21. son désir en achevant cette œuvre, ce salut pour ce peuple que le Père lui a donné. Il dit, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Alors voilà l'œuvre de Christ d'unir en lui-même des pécheurs de toute langue, de toute tribu, de toute race du monde. Des pécheurs choisis par Dieu lui-même et ayant efficacement payé la rançon pour le salut. Maintenant, ils sont unis en Christ devant Dieu. Ah, quel salut glorieux! Mais ce n'est pas seulement une question d'avoir achevé cette œuvre à leur égard, mais sa gloire en manifestant à chacun de ceux pour qui il a payé la dette, en se révélant en eux. Et c'est pourquoi nous lisons ici dans le verset 6, « J'ai fait connaître ton nom. » Notez bien, « aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. » Donc, c'est évident que ce n'est pas pour tous les hommes, sans exception, parce qu'il y en a beaucoup dans le monde qui n'ont jamais entendu parler de cet évangile. Dieu, dans sa justice et sa souveraineté, les a laissés à leur sens réprouvé dans les ténèbres, et ils ne connaîtront alors jamais Dieu en vérité. Mais ici, Christ dit, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. » Du milieu du monde, voilà les élus pour qui Christ est venu. Mais c'est évident que ceux pour qui il est mort, il manifeste son nom en eux. Et c'est écrit, ils étaient à toi, c'est-à-dire depuis l'éternité, choisis dans cette grâce éternelle, et tu me les as donnés, encore depuis l'éternité, donnés à Christ. Et ils ont gardé ta parole. Gardé comment? Gardé au cœur. Une fois que l'Esprit de Christ le manifeste au cœur d'un de ses pécheurs rachetés, élus de Dieu, alors Dieu les garde et il garde aussi sa parole. Voilà ce qui est évident. Cela est la réponse à la question, mais comment savoir si je suis un de ces élus pour qui Christ a donné sa vie? Je vous pose la question, est-ce qu'il a manifesté en vous cet évangile que je suis en train de prêcher? Est-ce que vous l'avez reçu dans le sens que vous gardez maintenant cette parole dans votre cœur? Voilà la foi que Dieu donne à ceux pour qui Christ est le Sauveur. Alors, la preuve, c'est que ceux pour qui il est mort, une fois que l'Esprit de Christ se manifeste en eux, donc ils viennent à Christ et ils croient en lui, ils se reposent en lui et son œuvre uniquement, sans mettre confiance désormais à la chair, mais toute la confiance en Christ et Christ seul. Ça, c'est une évidence de la grâce de Dieu, là où il manifeste le nom de son Père, au pécheur. C'est pourquoi dans le verset 7, c'est écrit, « Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. » Ils ont connu. Ça, c'est le fruit efficace et évident dans les cœurs de ces pécheurs pour qui Christ prie ici et que le Père lui a donné dans sa grâce souveraine depuis l'éternité, pour qui il a donné sa vie, c'est qu'ils ont connu que tout ce que le Père lui a donné vient de lui. Il y a cette harmonie parfaite entre le Père et le Fils. Et notez bien, cette alliance du salut, alliance de la grâce, ne concerne pas les pécheurs. Les conditions sont sur le Sauveur et non pas sur les pécheurs. Si c'était possible que les pécheurs fassent quoi que ce soit pour leur salut, donc Christ est mort en vain. Mais puisque c'est évident que les pécheurs, étant déjà condamnés, ne pouvaient rien faire pour leur propre salut, alors c'était nécessaire que Christ le fasse du début jusqu'à la fin. Et c'est ça que le Seigneur Jésus précise ici, que maintenant ils ont connu. Nul ne peut connaître le Père si ce n'est à travers le Fils, et ceux en qui le Fils le révèle. Alors si maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, ça c'est une œuvre du Saint-Esprit, et la preuve d'être racheté par Christ et choisi par Dieu le Père. Et puis, pour finir ce message, dans le verset 8, voilà le fruit de l'œuvre efficace de Christ, c'est qu'il donne sa parole à ceux que le Père lui a donné. Il dit, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Voilà la révélation de Christ qui est nécessaire pour connaître Christ en vérité. Ça vient de Christ lui-même, c'est révélé par l'Esprit de Dieu. Et les paroles dont Christ mentionne ici, dans d'autres parties des Écritures parfois, c'est appelé la doctrine de Dieu. D'autres fois, on lit concernant la parole de la vérité. Ailleurs, nous lisons concernant le témoignage de Dieu. Et encore, le ministère de la réconciliation. Voilà différentes manières dont ces paroles sont décrites dans les Écritures. Mais surtout, l'Évangile de Dieu. Qu'est-ce que l'Évangile de Dieu, si ce n'est ces paroles concernant Christ que le Père lui a donné, et maintenant il révèle à ceux qui sont les objets de l'amour de Dieu et pour qui Christ est venu dans le monde. C'est écrit, ils les ont reçus. Voilà encore comment nous voyons l'efficacité de l'œuvre de Christ. Ils les ont reçus. Ce n'est pas une question de vouloir sauver qui que ce soit. Et malheureusement, voilà, beaucoup que Dieu voulait sauver finissent par mourir dans l'incrédulité parce qu'ils n'ont pas reçu cet évangile. Non. Si quelqu'un ne reçoit pas l'évangile, c'est que ça n'a jamais été destiné à cela. Parce que tous ceux que le Père a donné à Christ, Christ lui-même a dit, viendront en moi. Et c'est de ça qu'il prie ici, ils les ont reçus. Et ils ont vraiment connu. Ça, ce n'est pas simplement une connaissance intellectuelle, mais spirituelle. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Ce n'est pas simplement croire que Dieu l'a envoyé, mais pourquoi il l'a envoyé. Et qu'est-ce qu'il a accompli en venant dans ce monde? Voilà l'essentiel de l'Évangile. Et c'est évident que l'œuvre efficace de Christ accomplit le tout. Non seulement l'aspect légal, en obéissant la loi et la justice de Dieu à la satisfaction du Père, mais aussi la révélation de cela au cœur de ceux pour qui Christ est venu. Le salut est certainement de Dieu du début jusqu'à la fin. Et tous ceux qui sont sauvés reçoivent ce salut avec joie.
Vous venez d'écouter un message qui vous a été présenté par Ken Wymer, prédicateur de l'Évangile de la grâce de Dieu aux États-Unis. Pour plus d'informations sur le message ou d'autres renseignements, veuillez visiter notre site sur l'internet www.shrevegeorge.com. grace.org.